Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais revenir sur ce sujet qui passionne les foules, c'est le débat entre la maison individuelle et le collectif. Alors, pour la petite histoire, on sait que la mèche a été allumée par la ministre du Logement, Madame Wargon, a déclaré d'une manière très abrupte que la maison individuelle était le mal absolu. Ensuite, il y a eu des réactions totalement opposées, où la maison individuelle, c'était le bonheur des Français. Et puis, il y a eu un rétropédalage de la ministre. Il y a eu des attaques contre elle, lui faisant remarquer qu'elle habitait dans une banlieue riche, dans une maison individuelle, et qu'elle était mal placée pour stigmatiser les maisons individuelles. À la suite de cela, on a eu toute une série de chiffres, de justifications, d'ordre écologique, énergétique, socio-économique, tout ça étant donné avec des chiffres, certains d'une précision extrême dont on peut douter, d'autres sans chiffres avaient des appréciations qui étaient beaucoup plus, on peut dire, morales que réelles. En fait, on peut dire qu'il y a une grande confusion à la matière. Donc, ma première position, c'est de dire, il ne s'agit pas du combat du bien contre le mal. En fait, le problème de l'habitat individuel et de l'habitat collectif est un choix qui est certainement aussi vieux que l'urbanisation, que le bâti des humains. Ce sont des choix de société, c'est des choix de circonstances, mais aussi sur un plan individuel. Ce sont des choix de vie qui ne sont pas des choses définitives, puisqu'on sait que on ne vit plus et on ne naît plus dans et on ne meurt plus dans sa maison que l'on transmet à ses enfants, comme ça a pu être le cas dans d'autres époques. Aujourd'hui, les choses sont totalement différentes dans la mesure où chaque famille change d'habitation, chaque individu d'une manière assez conséquente au cours de sa vie. Donc, il faudrait mettre un peu de sérénité dans ce débat qui en manque tout à fait. Alors, d'abord, il faudrait dégonfler des baudruches. Par rapport à ce qui est annoncé, on va mettre l'écologie sans rien vérifier, en disant par exemple que l'immeuble collectif coûte beaucoup moins cher à la construction que la maison individuelle. Alors là, c'est quelque chose qui n'est pas très juste. D'abord, il faudrait savoir de quelle maison on parle, de quel collectif on parle, mais si on parle par exemple des normes minimales qui sont appliquées aujourd'hui dans notre pays, on va vous dire oui, la maison individuelle demande plus d'isolation, mais on peut dire aussi que la maison individuelle demande moins de fondation et que le collectif a des parties communes, il y a des gestions plus complexes et de gestion de copropriété. Sur un plan économique, on peut faire un débat, mais surtout un débat qui va être circonstanciel, qui va dépendre des maisons, de quel type s'agit-il. Et également, il s'agira aussi la même chose pour les immeubles. Ce que l'on peut dire, qui est par contre objectif, c'est que la maison individuelle a comme avantage, si on prend par exemple le lotissement pour les constructeurs, enfin pour les gens qui l'habitent, c'est d'avoir à sa disposition la possibilité d'extension sur un terrain, même un terrain minime, et aussi une fluidité dans les espaces et dans leur aménagement qui ne sont pas ceux de l'immeuble collectif, où par exemple un mur porteur ne peut pas être démoli, que ce soit dans un immeuble ancien ou dans un immeuble récent. Également, effectivement, il y a une absence dans le cas de l'immeuble collectif, et c'est un phénomène qui est assez récent, il y a une absence totale d'espace de rangement, d'espace de stockage. Il n'y a plus de cellier, il n'y a plus de cave. On a réduit les loggias au minimum, les balcons également. Il y a une différence sur un mode d'utilisation, une différence qui a beaucoup pesé pendant la crise du Covid, où les gens ont été bloqués chez eux et ils n'avaient plus cette possibilité, notamment pour les gens qui habitaient dans le collectif, d'investir d'autres lieux et d'autres espaces, puisqu'en fait, ils n'avaient ni jardin, ils n'avaient pas ces espaces qui sont le garage qui va être aménagé en une autre pièce, etc. En tout cas, cette liberté de manœuvre que la maison individuelle apporte. Alors, la première question, c'est, on pourrait dire aussi que l'immeuble collectif pourrait être pensé d'une autre manière. Se questionner pourquoi aujourd'hui il n'y a plus d'espace de dépendance, d'annexe au mètre carré principal. Et là, il y a différentes raisons qui sont économiques, réglementaires, où on a surchargé l'immeuble collectif d'une manière, à mon sens, scandaleuse de normes de toutes sortes. Et la maison individuelle, il y a évidemment, par son statut d'individuel, il y a échappé. Alors après, évidemment, quand on parle d'isolation, tout ça, par rapport entre la maison individuelle, la maison en bande, les différences ne sont pas essentielles. La laine de verre en mètre carré, c'est moins de 20 euros. Donc, il ne s'agit pas de sommes extraordinaires. Donc, tout ça, ces débats économiques sont des débats à la marge et qui masquent des débats de fond et qui sont des débats beaucoup plus de choix, de société. Et effectivement, la question dont je parlais, qui était celle des dépendances, me paraît un sujet majeur et qui pourrait être résolu. Alors, le problème aussi qui est pensé sur un plan de l'urbanisme, on dit ça dépense énormément de foncier et dans la densité urbaine, on a d'un côté la densité urbaine et de l'autre côté, on a le mitage et les extensions des villes à perte de vue. Donc, cela aussi, j'en ai déjà parlé, ce problème de la densité est un faux problème, parce que autant les villes denses sont les villes anciennes, mais qui ne correspondent pas aux normes actuelles, et aujourd'hui la densité du logement en immeuble peut être comparée à celle des maisons individuelles denses. Alors il est évident que si on fait des maisons sur un hectare ou sur même 5000 m², la question est différente. Mais par contre, si on parle du coût pour la collectivité, en mettant d'un côté les dépenses qui seraient énormes pour la collectivité dans le cas de ce qu'on appelle l'étalement urbain, les choses ne sont pas aussi simples, parce que la densité demande, par exemple, que les ordures ménagères soient relevées tous les jours. Il y a des nettoyages de rue, il y a un éclairage qui doit être important dans les zones urbaines. Tout ça, c'est des frais de collectivité. Par rapport au logement, enfin, du logement dense par rapport à la maison individuelle, c'est plutôt des choix de forme qui vont être donnés que des choix qui vont être fondamentaux sur un plan économique. Ça se saurait. Donc les communes qui sont, on peut dire, en grande partie en maison individuelle, ne sont pas des communes en faillite par rapport à celles qui ont le choix de la densification. De plus, Si on parle d'une échelle un peu plus grande, évidemment, si on parle sur une opération seule, mais si on ramène à une échelle plus grande, ça veut dire le logement collectif avec la nécessité d'espaces verts, de parcs, est une demande tout à fait générale. Vous voyez par exemple à Toulouse, Andromède, qui est, on peut dire, construit en grande partie ou en collectif ou alors en maison en bande de danse. La densité moyenne, c'est des 0,2. Ce qui est équivalent au lotissement et au village de maisons individuelles. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs le même taux que l'on peut trouver dans les grands ensembles des années 60 ou 70, comme le Mirail ou Ampalo. Donc on arrive à des ratios de densité sur une grande échelle, qui sont les mêmes. Donc, les économies et les choix économiques, doivent être pensés d'une autre manière, et c'est un problème totalement différent. Bon, on va marquer une pause musicale et je vais reprendre le débat. Oui, nous reprenons donc sur les aspects économiques qui sont évidemment un problème central aujourd'hui. S'il y avait une solution miracle, ça se saurait. Et il faut dire que l'habitat collectif, il y a aussi des contraintes importantes. Par exemple, les espaces verts, s'ils sont pris par la collectivité, les espaces verts, ça coûte très cher à l'entretien. Et on sait par exemple que au bout de 7 ans, le prix d'un espace vert public, et on le repaie tous les 7 ans. C'est-à-dire qu'il soit simple ou qu'il soit complexe. C'est une règle assez immuable. Donc, le fait, par exemple, dans la maison individuelle avec des jardins, ben les jardins, ils sont entretenus par les particuliers, et donc ce n'est pas à la charge de la commune, et on peut dire qu'on peut avoir un verdissement également qui n'est pas impacté par la collectivité. Tous ces problèmes de bétonisation et tout ça sont aussi relatifs. Alors, après, de penser qu'avec l'immeuble collectif, on est près du travail et que dans la maison individuelle, on est loin, c'est une bêtise absolue. Comme je vous disais, avec le problème de, enfin, la densité qui est à peu près équivalente, et je le répète encore une fois, les immeubles aujourd'hui, on ne peut pas faire ce que l'on faisait dans les villes anciennes où on avait des cours sombres où les pauvres vivaient dans des pièces qui n'avaient pas de lumière naturelle. Donc on était dans des relations totalement différentes et qu'aujourd'hui tout le monde a droit, et c'est normal, et c'est très bien ainsi, à avoir des logements qui soient sains et avec un éclairage, ce qui demande une distance des immeubles les uns par rapport aux autres et qui de ce fait ne peut pas arriver à une densité très forte, et c'est bien comme cela. Alors, c'est pas la même chose pour les bureaux, où effectivement ce genre de contrainte n'est pas indispensable, et encore moins, et ça c'est un de mes sujets favoris, encore moins pour tout ce qui est autres activités qui, par contre, peuvent être superposées, et c'est justement le grand problème de l'urbanisme en France, c'est que toutes ces zones industrielles, commerciales, d'activités, et d'ailleurs d'une manière générale d'équipements publics, ne sont pas denses, sont faits sans grande planification et consomment du territoire d'une manière inutile, et aussi augmentent la distance entre l'habitat et ces secteurs d'activité. Alors ça, c'est le problème de rêver de l'habitat près du travail. Ça, c'est un rêve absolument stupide. Alors je le répète, j'ai dit que c'était le modèle des corons, c'est-à-dire d'une vie qui serait segmentée en classe sociale. Je le répète encore une fois, c'est une absurdité totale, parce qu'aujourd'hui, les familles travaillent, c'est-à-dire la mère de famille, le père de famille, et puis les enfants vont dans des établissements scolaire, où on ne s'arrête plus comme avant à l'école communale avec le certificat d'études, mais que les études sont complexes et qu'en fin de compte, on ne peut pas du tout dire vous allez avoir votre activité au pied de votre immeuble et vous allez pouvoir vous déplacer en vélo. C'est une bêtise totale et absolue. Donc bien sûr que la voiture est indispensable et les transports en commun, on ne peut pas imaginer les transports en commun. Les transports en commun, c'est la collectivité qui les paie, et même si les gens participent, c'est toujours déficitaire, donc on ne va pas augmenter à perte de vue pour des transports en commun qui ne seraient employés qu'une partie de la journée par très peu de gens. Bon, alors là, c'est un débat que l'on aura lors d'une autre émission sur les transports, mais il faut être raisonnable et savoir que la voiture automobile, c'est pas un sujet de choix. Par contre, effectivement, l'immeuble collectif et la maison individuelle, c'est un choix qui va être un choix, par exemple, pour des jeunes personnes, ça va être un choix aussi pour pour des jeunes couples qui n'ont pas envie d'avoir la charge de repeindre la clôture, d'avoir un jardin à entretenir. Ce n'est pas. Et puis aussi, il y a certaines personnes âgées qui préfèrent être dans des résidences conviviales et sans avoir aussi avoir la charge de l'entretien d'une maison et d'un jardin, ce qui aujourd'hui peut constituer une partie importante de la population. Donc, ne serait-ce que pour cela, l'habitat collectif est une nécessité. Donc, le choix n'est pas entre le tout collectif ou le tout maison individuelle, mais il faut arrêter aussi d'avoir aussi dans chaque camp de penser de cage à lapin, d'entassement, et dans notre cas, de penser d'une dispersion de maisons où les gens seraient sans vie sociale, etc. Tout totalement est faux, il y a une vie sociale évidemment dans des zones, on peut dire, d'habitat horizontal et très importante, justement. Et à l'inverse, on peut avoir dans des immeubles collectifs, dans les grandes villes, être dans l'anonymat complet, de ne pas du tout savoir et de ne pas vouloir savoir quels sont ses voisins et d'avoir une vie complètement coupée. Tout ça étant des fantasmes, des faux problèmes. Alors, on va parler aussi d'autre chose qui est liée à la maison individuelle aujourd'hui, c'est-à-dire que certains aussi vont la parer de toutes les qualités. Alors là, on en revient à l'écologie. Alors, il ne s'agit pas évidemment de critiquer l'écologie en soi, les questions qui sont posées sont effectivement pertinentes, mais les questions qui sont d'avoir de moins de dépenses énergétiques, de pollution, tout ça est parfaitement légitime et sain. On peut dire que c'est aussi que c'est pas nouveau. Je pense que toutes les civilisations ont eu ce souci, ces problèmes, en l'ayant, on peut dire, plus ou moins bien résolu. Donc, simplement, aujourd'hui, on voit par exemple que la maison individuelle en bois biosourcé et la présidente de l'Ordre des architectes, qui normalement devrait avoir une responsabilité importante auprès des pouvoirs publics pour représenter une profession, a tenu récemment sur Europe 1 des propos que je qualifierais un peu de délirants par rapport au béton, aux matériaux et en appelant aux matériaux biosourcés que sont la terre et le bois et la paille. Bon, alors j'ai déjà parlé de cela, mais évidemment, dans ce cas-là, on aurait une opposition qu'on peut dire civilisationnelle entre d'un côté une vision qui serait beaucoup plus industrialisée de la production de l'habitat et une qui serait d'une espèce d'artisanal archaïque avec un retour à d'autres époques médiévales où on construisait en torchis et en bois. Bon, ce sont des phénomènes marginaux et en plus de ça, qui n'ont pas tellement de sens. Alors, il faut rappeler une chose qui me paraît quand même importante aussi à dire, c'est que ces labels, on peut dire, moraux que l'on va donner sur les matériaux, le béton qui serait chargé de tous les maux, mais le béton, on en a toujours besoin, on en a toujours besoin pour faire des fondations, pour faire des linteaux, pour faire des chaînages, et même dans les maisons en bois, on est bien obligé d'avoir des surfaces bétonnées. De même, le bitume pour les voiries, on ne va pas revenir au chemin embourbé dans lequel les charrois s'enfonçaient. Donc, cette mode qui est surtout, on peut dire, lexicale, de débitumer, de débétonner tout ça avec des grands accents de pureté morale et totalement une fiction. Alors on va parler que du bois par exemple, quand on vous dit le bois est biosourcé. Ah oui, ah, effectivement, le bois, oui, le bois, simplement celui que l'on prend, on le coupe des arbres, il faut d'abord il faut le couper. Il faut dans les forêts, il faut le transporter et c'est pas une mince affaire. Ensuite, il faut le débiter et ensuite il faut le sécher. Donc on le sèche, on n'attend pas 50 ans, on le sèche à l'étuve. Ben, les étuves, ça demande beaucoup d'énergie pour le sécher. Ensuite, ce bois qu'il faut encore une fois transporter et traiter, il doit être traité. Pour l'utiliser dans le bâtiment, il doit être traité. Alors surtout quand il s'agit d'extérieur, eh ben, il doit être traité pour être étanche, pour ne pas pourrir. Donc c'est des lasures ou des peintures, et ce n'est pas rien. Et puis ensuite, il y a des traitements qui doivent être faits avec des produits qui empêche le développement des cryptogrammes, également des insectes, et on sait qu'il y a les attaques sur le bois, xylophages, et puis en dernier, et ce n'est pas le moindre, également, c'est la protection incendie. Ça fait beaucoup de choses, ça fait beaucoup de choses. Ce sont des produits, des phénols, des produits qui sont aussi toxiques et qui se répandent dans l'air. Donc, effectivement, le biosourcé idéal, ben, on en est loin. Alors, je ne suis pas contre le bois. En tant qu'architecte, j'ai construit beaucoup de bois, mais j'ai construit en intérieur ou protégé. C'est un matériau magnifique, mais qui a ses contraintes et qui pose aussi un grand nombre de problèmes. Donc, on redécouvre des choses sans voir les qualités, ou là aussi, au point de, avec des principes moraux. Et en fait, il faut revenir à des notions économiques vraies, pas des fantasmes sur ce qui est cher et pas cher. Il faut faire des analyses, et je vous dis que dans le cas précis, dans ce débat entre la maison individuelle et le collectif, il n'y a pas de vérité absolue, il y a des différents choix. Et je vais finir là-dessus. Il y a aussi une chose qui est la plus importante, c'est que la maison individuelle peut être une horreur construite n'importe comment avec des maisons de constructeurs sur des terrains qui ne sont pas faits pour ces maisons-là parce qu'il n'y a pas eu d'architecte, il faut le dire. Et il n'y a pas eu de réflexion, mais également on a des immeubles collectifs qui sont tristes, qui sont mal conçus, avec des appartements qui ne sont pas très vivables pour les gens. Et donc la question est aussi une question d'urbanisme, de la manière de marier les choses, de les voir à une grande échelle, et ça aussi c'est une réflexion aujourd'hui qui n'est pas faite. Et quand j'entends dire qu'aujourd'hui on doit faire à la ville, c'est quoi la ville aujourd'hui? La ville, on ne refait plus la ville comme avant, donc les périphéries, ben, les périphéries c'est à la ville d'aujourd'hui, donc en fait elles sont faites d'immeubles collectifs et elles sont faites de maisons individuelles, et elles doivent être faites d'une manière harmonieuse, d'une réflexion, d'une planification, et ça demande du travail, et surtout pas des préceptes moraux entre le bien et le mal, mais un respect des autres, et un respect aussi des goûts du public. J'avais terminé avec ça la dernière fois, et je pense que c'est la chose la plus essentielle, c'est-à-dire que ça ne doit pas venir d'en haut, mais on doit écouter quels sont les désirs des gens. Je vous dis à la semaine prochaine.